Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
La nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Il propose avec Marie-Laurence, son épouse, à travers des parcours adaptés aux situations diverses de chacun, au sein de l'Institut de formation Psychrétien, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres, et cela dans la perspective d'être davantage disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans nos vies. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion et de partage ce soir, c'est très important, hein, comment retrouver la confiance en soi.
Voilà. Quand on en manque.
Quand on en manque. Et puis, quand on en manque, où la retrouver et les moyens aussi, les moyens pour la retrouver.
Oui. Ouais.
Quand on en manque.
Quand on en manque, si on en a,
si on en a, il n'y a pas de problème, tant mieux. On rend grâce, simplement.
Voilà. Et puis, quand on en manque ou quand on n'en a pas, ça va être de regarder comment on peut faire.
Voilà.
Pour la retrouver.
Comment peut-on retrouver la... Voilà. Alors justement, on le dit bien que l'enfance, c'est important, parce que c'est quand même là que tout commence à se jouer.
Oui, elle se construit à travers les différents stades de l'enfance, en lien d'ailleurs avec l'image de soi. Image de soi, confiance en soi, ça va un peu ensemble. Mmh. Et dans l'enfance, l'enfant est dépendant de son environnement. Alors, il y a quand même une part de caractère qui intervient, mais il y a aussi tout l'environnement, tout l'enfant que va recevoir, tout l'amour que va recevoir l'enfant.
Ah oui, bien sûr. Ça va jouer beaucoup quand même.
Oui, parce que finalement, on développe notre confiance en étant aimé ou en se sentant aimé. Parce que ça ne veut pas dire que les parents n'aiment pas l'enfant, mais l'enfant a besoin de le sentir.
De le sentir, oui.
Et de sentir qu'il a une valeur aux yeux de son environnement. Alors, parents, école, tout ce qui fait son environnement.
Alors, donc, on va voir un peu les points du développement, peut-être, pour commencer.
Oui, peut-être on peut dire aussi, on parle d'amour, mais attention, trop d'amour, ça nuit à la confiance.
Aussi.
Aussi. Trop d'amour quand c'est un amour surprotecteur.
Ah oui.
C'est-à-dire l'enfant a besoin d'un amour, mais d'un amour qui le laisse vivre, qui le pousse vers la vie, qui le pousse vers...
Un amour qui fait grandir.
Amour qui fait grandir, ouais, voilà. Ouais. S'il n'y en a pas assez, il va se sentir mal aimé, donc il manquera de confiance. Mais si c'est un amour étouffant qui l'empêche d'agir, de prendre des risques, de faire des expériences...
Oui, des initiatives,
voilà,
ça,
à
oui.
ce moment-là, il risque aussi de manquer de confiance.
Alors, donc, on voit, c'est pas, il faut le juste milieu. Hein.
Voilà, comme dans toute chose, il faut un équilibre entre le pas assez et le trop.
Alors, donc, ça va passer aussi par un amour juste. Hein,
voilà, un amour juste pour construire une sécurité de base.
Ah oui, c'est ça un point, le socle.
C'est le socle de la confiance. Oui. Alors, la sécurité de base, elle commence déjà in utero. Aujourd'hui, il y a des techniques comme l'aptonomie pour entrer en relation avec l'enfant in utero de façon, et puis travailler sur comment la mère porte l'enfant. Quelle relation elle a, mais aussi le père. Le père est aussi présent dans l'entrée en contact...
Avec le bébé.
Avec le bébé.
C'est vrai, quand même, là, il y a eu une prise de conscience et des... avant, on attend l'enfant, grandissait dans le sein de sa mère, mais on ne faisait pas attention. Enfin,
voilà.
On ne voyait pas l'impact. Ça.
On ne voyait pas l'impact. Aujourd'hui, on sait que le stress, par exemple, le bébé vit le même stress...
Que sa maman.
Oui. Si on sait aussi toute l'importance du lien des parents, la mère bien sûr, mais globalement des parents...
Du couple, oui, enfin, c'est ça.
Du couple avec l'enfant. Oui. Et ce lien, il peut être créé, favorisé, amélioré déjà in utero. Et puis après, il y a ce que Winnicott appelait un environnement suffisamment bon pour que le petit enfant puisse se développer d'une façon harmonieuse. Mmh. Alors, suffisamment bon, ça veut dire la façon dont est materné l'enfant, dont il est porté aussi.
Quand il est né, alors là.
Alors, quand il est né.
Oui.
À la fois physiquement,
oui,
mais aussi psychiquement. C'est-à-dire que les parents portent aussi mentalement,
oui,
psychiquement leur enfant, autant que physiquement.
Oui. Et il le touche. Enfin, c'est important qu'il soit touché aussi, l'enfant.
Alors, c'est très aussi important qu'il soit touché, qu'il y ait une relation, une relation avec.
Oui.
Et contrairement à ce qu'on croit, les bébés comprennent. Alors, ils comprennent pas forcément les mots, mais ils comprennent au travers des intonations, des émotions qui sont transmises. Voilà.
Au plus profond, finalement, au plus viscéral, on peut dire.
Oui, au plus viscéral, ils sentent. Mmh. Ils sentent l'ambiance.
Oui.
Ils sentent ce qui leur est renvoyé. Par exemple, un enfant qui pleure, mais si on panique, il va sentir la panique des parents.
Ouais.
Si au contraire, les parents... le calme, ont une attitude chaleureuse ou autre, il va sentir ça comme il va se sentir réconforté. Hein.
Oui.
Voilà. Alors, même s'il comprend pas forcément les mots qui lui sont dits, il comprend le message à travers la tonation, à travers toute la façon dont c'est transmis.
Mmh. Et ça va l'aider, à trouver une confiance en lui, ça va participer.
Alors, ça va l'aider à trouver une confiance en lui. Ça va l'aider aussi à gérer tout ce qu'il vit. C'est-à-dire que le petit nourrisson, il ressent plein de choses.
Oui.
Mais il sait pas trop ce que c'est encore.
Il découvre la vie.
Et c'est parce que ses parents vont comprendre et interpréter la façon dont il pleure, la façon dont il crie, qu'il va progressivement apprendre à le gérer. Et donc, tout ça va construire la confiance.
Mais alors, si les parents n'ont... Ça, c'est vraiment les parents... Si les parents n'ont pas vécu ça et n'ont pas travaillé peut-être sur eux-mêmes pour transformer ça, c'est plus difficile.
Alors, c'est plus difficile. En même temps, ce qui est important, c'est que le lien soit créé avec l'enfant.
Oui.
Et ça, dès la naissance au minimum, mais même in utero. Et à partir du moment où le lien est créé, sauf vraiment s'il y a vraiment une difficulté, mais dans la majorité des cas, ça se passe bien. Voilà. Et puis parfois, il arrive qu'il y ait une véritable difficulté. Dans ce cas-là, ça peut créer des difficultés pour l'enfant.
Bien sûr. Enfin là, d'une façon plus large, on voit combien cette sécurité de base est importante pour lui.
Est importante, alors pour le bébé, mais aussi pour toute la vie.
Oui, c'est ça. Oui.
Parce que c'est là-dessus, après, on pourrait dire que ce sont les fondations de la confiance pour toute la vie.
Oui, de l'adulte.
Voilà, et on voit bien, en tant qu'adulte, on a besoin de bienveillance autour de nous, on a besoin d'être compris des autres, on a besoin de retour des autres, aussi pour se sentir en confiance et en sécurité.
Oui. Alors, c'est vraiment, cette bienveillance est importante, justement.
Voilà, il faut appliquer la parole de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Il faut qu'on se l'applique parce que ça participe. À la confiance, à la confiance en les autres, mais aussi à la confiance en soi. Et puis, on a aussi besoin de compréhension, et ça passe par le dialogue, par l'attention mutuelle.
Oui.
On a besoin de comprendre, par exemple, en période de crise économique, de comprendre ce qui se passe, de comprendre les enjeux, de comprendre comment on peut en sortir de cette crise.
On a besoin de points de repère, de compréhension. Alors, on va comment se construit alors un environnement positif, suffisamment bon, comme dit Winnicott. Ça passe par ça passe par quoi?
Alors, d'abord par la famille.
Oui.
Puisque c'est d'abord là. Et on voit notre époque qui est à la fois une dispersion des familles, à la fois géographique, mais aussi structurellement, avec les divorces, avec les familles monoparentales.
Oui.
La famille, c'est quand même... et enfants, mais aussi adultes, le premier endroit où on peut trouver du soutien.
Mmh.
Et donc, c'est important de favoriser les liens familiaux, de conserver les liens familiaux, même si c'est aussi important d'avoir des amis. Mais notre premier lieu de soutien, c'est quand même la famille, et ça reste la famille.
Oui, oui. Alors, la famille, donc, c'est, on le dit, c'est la base. Et c'est pour ça aussi qu'elle est tellement attaquée aussi.
Voilà, c'est la base de la société. Et après, on pourrait dire, c'est un peu comme des empilements de cercles.
Ah oui, qui,
voilà,
il
y a la famille, et puis après, il y a le cercle des amis, il y a le cercle... des copains, mais qui sont pas forcément des amis proches, et puis le cercle des collègues, enfin...
Des différentes associations, peut-être, auxquelles on peut participer.
Tous les liens qu'on a avec les autres, qui qui sont de plus en plus larges ou de plus en plus distants.
Voilà, comme les ronds dans l'eau voilà. qui sont de plus en plus larges. Alors voilà, donc la famille, l'environnement après plus large. Autre point aussi pour construire un environnement bon.
Alors, l'autre point, ça va être la capacité à être seul. C'est-à-dire que la confiance en soi, elle va aussi être influencée par l'apprentissage de la capacité à être seul.
Oui.
Et quand on regarde un bébé, dans un premier temps, il est en symbiose avec sa mère.
Oui.
Puis, il se sépare progressivement. Il apprend à être seul, mais à être seul en présence de sa mère. C'est pour ça qu'il la suit partout, que, par exemple, s'il est dans une pièce et que la mère s'éloigne, va dans une autre pièce, il va pleurer.
Mm-hmm.
Parce que il peut jouer, donc il peut avoir une certaine solitude.
Oui, son activité,
mais
oui.
Mais il a besoin de la présence à proximité pour être assuré.
C'est ça.
Et puis, dans un deuxième temps, il pourra être complètement seul, c'est-à-dire jouer tout seul dans sa pièce, dans sa chambre, par exemple, pendant que la mère ou les parents sont dans le salon, dans la cuisine.
Mmh. Et justement, le lien avec la confiance en soi, c'est justement cette...
Cette capacité. Alors, il y a l'apprentissage.
Oui,
voilà,
comment
la symbiose en présence et seul.
Mmh.
Donc ça, c'est un apprentissage.
Il y a
des étapes.
Oui.
Et puis après, on pourrait dire que l'éloignement, après c'est seul à la maternelle. Alors il est pas seul, il est avec d'autres, mais il quitte sa famille.
Mm-hmm.
Et puis après, ça va être le départ, par exemple, pour des études supérieures.
Mm-hmm.
Et on voit, il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à ce moment-là.
Oui.
Parce qu'ils se retrouvent souvent seuls soit dans une fac immense où ils sont perdus, soit parce qu'ils vont dans une ville
étrangère, différente
de leur lieu familial et ils se retrouvent tout seuls. Et donc, en tout cas, c'est important que l'enfant et plus tard le jeune, et acquis cette capacité à être seul pour pouvoir se faire confiance.
Alors, on va y revenir dans quelques instants. Nos auditeurs sont invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Comment retrouver la confiance en soi? Nous écoutons tout de suite Gérard Manset. Il voyage en solitaire.
Radio Notre-Dame.
Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire. Et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante. reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul, un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté, d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garder. Et voilà le miracle en somme. C'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante.
Voilà, Gérard Manset, il voyage en solitaire. Justement, on parlait de la capacité à être seul,
oui.
Hein, pour construire la confiance en soi. Donc là, il y a quelque chose. Hein, on...
Voilà, c'est une qui n'a rien à voir avec l'individualisme.
Non, non.
Il s'agit de pouvoir assumer sa solitude d'être humain.
Oui. L'être humain, on est fait pour assumer cette solitude aussi.
Mais pour pouvoir vivre l'altérité avec l'autre.
Voilà. Pouvoir être en relation. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Avant de poursuivre, je voudrais vous... Parce qu'il y a Israël qui pose une question. Alors, voilà. Il dit, quelle est l'importance des langes pour un bébé?
Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire. D'abord, c'est toute la question de la propreté, du bien-être de l'enfant.
Oui.
Donc, c'est important pour lui qu'il se sente bien.
Oui.
Parce que, du coup, il se sent bien dans son corps. Et ça participe à son bien-être psychique.
Oui, bien sûr. Oui.
Et que s'il se sent mal,
Il y a un mal-être, oui, c'est ça. Et le psychisme aussi, il n'est pas... Enfin,
oui.
Il y a une interaction.
Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui est... Donc ça, c'est le maternage. Il y a un autre aspect qui est la contenance. C'est-à-dire que l'enfant... il a besoin de sentir son corps, de sentir qu'il a des limites. Et ça, c'est l'adulte, mais c'est aussi son environnement qui lui donne. Alors, physiquement, par exemple, un enfant, il a besoin de sentir comme ça, alors à travers les langes ou à travers... dans le berceau. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être souvent les enfants, ils sont collés aux barreaux du lit. Enfin,
ah oui, parce qu'ils ont une...
Ça leur donne une frontière.
Oui.
Ils sont pas dans le vide.
Oui, oui, oui.
Sinon...
C'est sécurisant, quelque part aussi.
Oui, parce qu'ils sont contenus par quelque chose.
C'est ça, oui.
Ils sont à la fois portés et contenus par quelque chose.
Oui.
Et du coup, ça donne une sécurité. Ça, sinon, on a l'impression d'être dans le vide et c'est très angoissant.
L'enfant a besoin de sentir comme une colonne vertébrale aussi, que les parents vont donner, mais l'environnement aussi, et les langes en participent.
Alors, il y a la colonne vertébrale, ça c'est un peu la présentation dans le roi lion du bébé là où on tient l'enfant par le siège.
Oui.
Voilà, et ce qui lui permet de sentir sa colonne vertébrale,
ah oui,
et sa sécurité par le siège.
Oui, oui.
Ça, c'est
l'assise, enfin.
Voilà, l'assise.
Oui.
Et puis l'autre aspect, c'est l'enveloppe. C'est-à-dire de sentir qu'il y a quelque chose de fini autour de lui et qu'il n'est pas perdu dans un infini.
Oui, qu'il serait liquéfié ou
voilà,
il a besoin d'être contenu.
D'être contenu. Mm-hmm. Alors ça, à la fois physiquement, et les langes y participent d'une certaine façon. Il ne faut pas non plus, comme à une époque, qu'il ne puisse pas bouger. Alors ça donnait une contenance, mais il ne faut pas une contenance qui est emprisonne non plus.
Non.
Mais
aucun excès, juste milieu.
Voilà. Et psychiquement aussi, il est contenu par les parents. C'est-à-dire que l'enfant, quand il vit une émotion, quand il vit quelque chose, finalement, les parents contiennent un bébé qui fait une colère.
Ben oui, oui, oui.
Il peut y avoir de la violence dans un bébé, mais c'est parce que les parents sont là, que c'est contenu et apaisé.
Mm-hmm.
Donc, il y a à la fois cette contenance physique de sentir qu'il n'est pas dans le vide et qu'il y a quelque chose qui l'enveloppe.
Oui.
Et psychologiquement, il y a la même contenance par l'attitude des parents.
Donc voilà, c'est important. Voilà, Israël, votre question était importante aussi. Elle avait un sens au-delà de ce qu'on pouvait penser.
Voilà.
Alors, on évoquait la capacité à être seul, et vous disiez que il faut pouvoir vivre, pouvoir assumer la solitude pour vivre l'altérité et pouvoir aller vers l'autre.
Hein. Oui. En gros, c'est d'abord de se différencier.
Oui.
Pour pouvoir être en relation, tant qu'on est dans la fusion, qu'on n'est pas différencié, on n'est pas vraiment en relation.
Mm-hmm.
Donc c'est cette différenciation, donc cette capacité à être seul qui permet la relation.
Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes seules et c'est pas facile pour la plupart.
Oui, alors, mais peut-être faut distinguer solitude et isolement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes isolées, ce qui n'est pas pareil que la capacité d'être seule.
Oui, oui.
La capacité d'être seule, c'est ce qui permet d'aller vers les autres et donc de ne pas être isolé. Alors que notre société actuelle, il y a une espèce d'anonymat, les familles sont loin, sont dispersées, donc là il y a un isolement.
Mmh.
Alors en même temps, on voit avec les réseaux sociaux que parfois ça permet de donner une illusion, en tout cas de rompre, mais ça rompt l'isolement d'une certaine façon, mais ça reste un peu virtuel.
Mmh. Une illusion de relation aussi, peut-être.
Voilà, une illusion de relation ou une relation virtuelle. Mais ce qui fait aussi que ça marche peut-être autant en dehors de l'aspect pratique d'information ou autre. Ça permet aux personnes isolées de se sentir moins isolées.
Mmh.
Parce que ils ont quand même des liens, sont des liens à travers un ordinateur, ils ont quand même l'impression d'être en lien avec d'autres.
C'est peut-être ça aussi que le succès de l'ordinateur, un des succès, d'avoir un lien quand même, si c'est pas comme une relation.
C'est virtuel, mais en même temps, ça prive les gens. Peut-être de se mettre en mouvement et de sortir pour aller à la rencontre de l'autre. Alors, il y a un aspect bénéfique. Ça rompt l'isolement, mais l'aspect négatif, c'est que quand il n'y avait pas les réseaux sociaux et qu'on se sentait seul, fallait sortir pour aller voir des amis, pour faire des rencontres.
Bien sûr. Alors, un autre point qui va permettre de construire un environnement positif, Vous parlez donc voilà, cette capacité d'être seul, qu'est-ce qu'on peut...
En tout cas, qui va participer à la confiance en soi, c'est de développer le sentiment de se sentir capable. Alors ça se développe chez l'enfant assez tôt avec la maîtrise de son corps et de ses gestes, notamment au travers des jeux. Alors déjà tout petit, l'enfant il manipule son hocher. Alors au début c'est un peu n'importe quoi. Au fur et à mesure il apprend à maîtriser ses gestes et à maîtriser les objets. Et du coup, c'est aussi une période après où il va pouvoir s'affirmer, établir ses frontières. C'est toute la période du « c'est à moi », où il s'approprie les choses. Chez l'adulte, on retrouve ça aussi. Alors, non plus comme l'enfant de manipuler...
Enfin, le hocher, non, quand même.
Le hocher, mais on retrouve ça dans le fait d'agir. Et c'est dans l'action qu'un adulte peut développer son sentiment d'être capable. Alors, ça peut être dans différents domaines. Hein. Ça peut être dans le bricolage, dans la cuisine... dans la couture, ça peut être dans les activités, qu'elles soient sportives ou culturelles, dans son travail, bien sûr, qui prend une place importante. Mais c'est tout ce qui est de l'ordre de l'action qui va permettre de développer ce sentiment. Ce qui rejoint la méthode des petits pas de Sainte-Thérèse, quoi. C'est pas forcément de... Alors, souvent, les gens ont l'illusion ou l'impression qu'il faut faire des grandes choses pour être capable. Il vaut mieux faire des choses accessibles et développer et puis monter les marches une par une que de vouloir sauter à la perche 6 mètres de haut.
Ah oui.
En tout cas, quand on n'est pas entraîné.
Oui, il vaut mieux s'entraîner pour ça, oui. Donc, les petits pas permettent de s'entraîner.
Voilà. Et de développer, progressif. Voilà. Et la personne peut se dire, bah, tiens, j'ai réussi à faire ça.
Autrement, on se décourage, parce que soit à la perche tout de suite, c'est décourageant quand même.
Mais du coup, la personne se sent capable et d'agir et d'avoir un impact sur son environnement. Et du coup, ça développe aussi une confiance, une sécurité et une confiance dans ce qu'on fait.
Alors voilà, donc là, c'est dans l'action. Est-ce que... Autre aspect encore.
Oui, ça va être de gérer ses émotions, c'est-à-dire de.
Comment on gère ses émotions ?
Alors, à la fois sans y renoncer, mais en les exprimant d'une façon adaptée.
Et alors, comment on procède pour les accueillir d'une. Exprimer d'une façon adaptée.
C'est d'abord les accueillir, les mettre en mots. Autrement dit, ni les refouler, pas se couper de ses émotions et pas mettre un couvercle dessus, mais non plus ni les défouler, c'est-à-dire il ne s'agit pas de...
D'exploser
ou de se répandre en effusion émotionnelle. Voilà, mais d'apprendre à les canaliser. Moi, je compare souvent ça à un robinet. Il ne s'agit pas de fermer complètement le robinet parce que la personne devient sèche, mais il ne s'agit pas d'ouvrir complètement le robinet.
Oui, parce que là, ça agit que partout.
Voilà. Mais d'apprendre à ouvrir progressivement.
L'image du robinet est très... Voilà. On ajuste pour que l'eau...
On ajuste et on peut ajuster en fonction des circonstances, en fonction des personnes, en fonction des besoins. Voilà, il y a des fois, si c'est au travail avec son chef, vaut mieux l'ouvrir tout doucement parce que il y a la sécurité de l'emploi. Si on se fait agresser, ben, vaut mieux l'ouvrir un peu plus parce qu'il faut se défendre. Et donc, on peut apprendre comme ça à gérer ses émotions.
En fonction des circonstances, on
peut dire. En fonction des circonstances. Ouais. Et surtout à mettre en mots. C'est-à-dire à mettre des mots dessus, à apprendre à dire. Et non pas à... Voilà.
Oui, parce que les mots permettent... Le fait de le dire, ça fait advenir plus précisément dans la pensée, dans voilà. Tout l'être, en fait.
Et puis, ça évite d'être envahi. Tant qu'il n'y a pas de mots, tant qu'on n'exprime pas alors par des mots, soit on verrouille... Et à ce moment-là, on sent que ça fait cocotte minute.
Oui.
Voilà. Ou alors, c'est tout ouvert et c'est le défoulement.
Ça explose, quoi.
Voilà, et ça explose. Et les mots...
Permettent de canaliser.
C'est
le robinet qui s'ajuste pour couler juste, sans éclabousser.
Voilà. Et en même temps, ça permet de dire à l'autre que... qu'on est content, qu'on est triste, qu'on est en colère, toute la gamme d'émotions qu'on peut ressentir.
Et le dire avec des mots, essayer de mettre des mots sans... Mais alors, on met les mots, mais il y a aussi l'intonation de la voix, peut-être, non ?
Oui, mais quand je dis mettre des mots, c'est à la fois... de dire à travers des paroles, mais en même temps, quand on exprime les paroles, on le dit avec l'intonation de la voix.
L'émotion passe aussi, il y a quelque chose de l'émotion qui passe à travers...
À travers tout le corps
tout
aussi,
le corps,
hein. Ça peut passer, par exemple, la tristesse, elle va passer à travers la voix, elle va passer à travers des larmes, elle va passer à travers le visage qui change, tout le corps va pouvoir exprimer l'émotion.
Oui.
Mais en plus, ça va être nommé, et ça, c'est important. Parce que déjà c'est important pour la personne. Il y a des personnes par exemple qui ressentent et qui n'arrivent pas à nommer ce qu'ils ressentent. Donc ils sentent ou un mal-être ou un bien-être d'ailleurs, sans savoir dire s'ils sont énervés, s'ils sont contrariés, s'ils sont joyeux,
situer. Merci, Pascal Parinet. Donc, comment retrouver la confiance en soi, hein, c'est le thème ce soir, et vous êtes invité à nous rejoindre. On écoute Bill Derem. Il avance, et bien nous aussi, nous avançons dans la confiance en soi.
Radio Notre-Dame.
Mais on y va depuis que je te connais. Dans le square où Saint-Séquoia, l'homme est grand, mais il marche à petits pas et tellement lampant, ce qui fait qu'il avance presque pas. Mais il avance petit à petit, à tout petit pas, petit à petit, à tout petit pas. Il avance à tout petit pas.
Tout petit pas.
Ah, tout petit pas.
Tout petit pas.
Ah, tout petit pas.
Tout petit pas.
Il avance et même s'il régresse quelquefois, il avance quand même. Même un jour on s'en aperçoit, parce que tu l'aimes. Parce que l'amour est patient. Tous ceux qui s'aiment dans la peine récoltent en chantant. Et il avance petit à petit, à tout petit pas. Petit à petit, à tout petit pas. j'avance à tout petit pas. Il avance quand il me recule pas, mais à tout petit pas. Je suis tombé cassé, lassé, cassé. 10 fois, 100 fois, tu m'as relevé, soigné, bandé, pensé. Avec la voix, qu'est-ce que je deviendrai? Oh, que serais-je sans toi? Oui, l'homme est grand-mère. Mais il marche à tout petit pas, et il avance petit à petit, à tout petit pas. Petit à petit, à tout petit pas, il avance à tout petit pas. Et tellement l'enfant, ce qui fait qu'il avance presque pas, mais il avance. Oh, il avance.
Oh, il avance. Voilà, c'était Bill de Rem. Il avance. Voilà, avec Pascal Parinet, nous avançons, oui, dans la confiance en soi. 01 56 56 44 00, voilà, pour nous rejoindre. Et comment la retrouver quand on en manque, hein, on va le voir dans quelques instants. On écoute tout de suite Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine.
Oui, bonsoir madame. Voilà, je vous appelais parce que je pensais au lien qui peut se faire entre les circonstances de la naissance et l'anxiété. Moi, par exemple, je suis le premier enfant de ma mère, enfin, du second mariage de mon père, enfin, et le premier enfant de ma mère.
Oui.
Et en fait, je suis née, alors, ma mère était elle-même, parce qu'elle est décédée, très, très anxieuse de caractère, hein, une anxiété très, très grande. Et en fait, elle m'a eu, quand elle m'a eu, elle avait des problèmes d'hypertension. Elle a fait une crise d'éclampsie au moment où je suis née. Enfin, je veux dire, l'accouchement s'est passé dans un contexte d'éclampsie, quoi, d'hypertension très forte, ce qui fait que l'accouchement a été difficile. Mmh. En plus, j'étais prématurée, d'un mois seulement, et je suis née aveugle d'un œil, parce que ma mère avait eu la rubéole quand elle m'a portée, sans s'en rendre compte. Les femmes n'étaient pas vaccinées à l'époque, la loi ne l'exigeait pas. Donc ça s'est passé dans un contexte d'angoisse, si vous voulez, de difficultés. Mmh. Et j'étais l'enfant la plus anxieuse de la famille. En fait, j'ai eu une psychothérapie qui a de 18 ans à 32 ans à peu près. Mmh. Bon, je m'en suis sortie, mais c'est vrai que je suis passée par des moments d'angoisse très très forts. Et en fait, je pense que c'est quand même lié. Enfin,
sûrement, oui, sûrement. Mais c'est-à-dire que. Si votre mère était anxieuse, et on peut le comprendre aussi, si elle avait attrapé la rubéole pendant la grossesse, enfin, il y a de quoi être anxieuse aussi.
Oui, bien sûr, oui. Hein.
Donc il y a tous ces facteurs-là, plus son anxiété naturelle, ben. Quelque part, elle était en insécurité et cette insécurité-là, vous avez pu la capter, la sentir, voilà. Et du coup, vous-même vous sentir un peu en insécurité et développer des angoisses comme ça.
On peut dire par osmose, quelque part, entre la mère et l'enfant.
Voilà, par osmose et par communication aussi. Oui. C'est un peu comme, je sais pas, s'il se passe un événement dans la rue et que les gens ont peur autour de nous, ben,
ça se communique.
L'émotion est quelque chose qui se communique facilement.
Oui,
les uns aux autres, et l'anxiété, ben, ça, ou les angoisses, ça en fait partie.
Oui, oui, et puis je pense aussi que souvent le cadre dans lequel est élevé l'enfant joue beaucoup sur la formation du caractère anxieux. Par exemple, ma mère, elle avait un fond de dépression, je pense, dans sa nature, qui fait qu'elle avait du mal à s'occuper de son cadre de vie. Enfin, je veux dire, chez nous, c'était un peu le foutoir. Enfin, bon, le ménage n'était pas toujours fait, etc. Elle faisait pas toujours très attention à son intérieur. Et je pense que ça nous a rendu aussi un peu anxieux. Enfin, mon frère, par exemple, a des anxiétés très fortes vis-à-vis de tout ce qui est pratique. Et il s'est même fait suivre pour ça par un psychiatre. Mmh. Et en fait, il a besoin de contrôler tout ce qui est ordre, organisation autour de lui. Et il m'a dit qu'il pensait que c'était dû au fait qu'on avait été élevé dans ce cadre-là. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer aussi ?
Alors, moi, enfin, il y a, disons, deux époques. Je pense d'abord il y a l'anxiété de votre mère qui est plus communicative que le désordre. Après, faut voir le niveau du désordre. Mais un enfant, son environnement, c'est un peu la norme pour lui.
Oui, oui.
C'est-à-dire que tant qu'il va pas chez les petits copains ou il connaît que ça et du coup c'est normal. Donc, même s'il y a du désordre, ça va pas forcément le perturber. Par contre, ça commence à le perturber quand il va à l'extérieur, qu'il voit que c'est différent et que, par exemple, il peut avoir honte d'amener ses copains chez lui, vous voyez. Mais ça, c'est un peu plus tard. Voilà, ça va jouer plutôt sur la honte, la culpabilité, se sentir moins bien que les autres ou avoir honte de sa famille. Voilà, ça c'est un peu plus vers au début de l'adolescence, quoi.
Oui, d'accord.
En tout cas, voilà, Marie-Christine.
Voilà. Moi, je me souviens aussi que j'étais, que j'ai eu beaucoup de mal à faire des amis quand j'étais enfant parce que j'étais très anxieuse. Alors, j'étais hypersensible, très vulnérable, quoi. Je me réfugiais beaucoup dans mes études. Alors, j'étais différente et j'étais du coup très critiquée. Mais je pense aussi que j'ai eu beaucoup de problèmes de culpabilité ensuite. Et je pense que ça favorise quand même la culpabilité, je trouve, d'être mal intégré, de ne pas être...
Alors, tout à fait, hein, parce que là, on a beaucoup parlé des petits-enfants sur les fondations de la confiance, mais par exemple au collège, ou même en primaire, mais encore plus au collège, où les enfants sont très durs ensemble, si quelqu'un qui est rejeté à l'école, au collège, par tous ses camarades de classe, il va mal le vivre et ça peut le suivre après dans ses relations sociales, dans la difficulté à aller vers les autres, dans des aspects plus ou moins dépressifs aussi. Enfin, vous voyez. Donc ça, tout l'environnement scolaire aussi a un impact très important.
Oui, oui, parce que moi, je sais qu'un professeur en seconde avait attiré mon attention sur le fait que j'avais des problèmes de groupe. Il m'avait dit, mais vous êtes trop différente d'eux. Enfin, vous êtes plus intellectuelle. Enfin, vous savez pas, vous fondez dans le moule, quoi. Vous moulez dans le moule. Et vous... Il m'avait conseillé de faire un peu comme eux, quoi, de me rapprocher de leur centre d'intérêt, de faire un peu comme eux. Et moi, je ne pouvais pas, j'étais trop fragile pour ça.
Ouais.
Alors, je lui avais dit que je pouvais pas. Il m'avait répondu que j'étais égoïste.
C'est pas de l'égoïsme, c'est toujours c'est la difficulté pour les enfants entre leur capacité à s'intégrer dans le groupe et puis de se sentir rejeté. Enfin, et c'est un peu un cercle vicieux, quoi. C'est plus c'est difficile, plus ils risquent d'être rejetés par les autres, et plus ils se sentent rejetés, plus ça va être difficile d'aller vers les autres. Voilà.
Oui, et puis je trouve que le monde de l'adolescence, de la préadolescence, c'est un monde, soit tu es comme nous et complètement comme nous et on t'accepte, soit tu es différent et bon, c'est le rejet, quoi.
Oui.
Et, enfin, je veux dire, il n'y a pas de milieu.
Et non.
Voilà, merci en tout cas à Marie-Christine de vos questions et j'espère que ça a pu servir aussi à d'autres auditeurs, les réponses de Pascal Pariné. Grand merci. On écoute tout de suite Gérard qui est en ligne. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on peut dire j'ai la foi? Enfin, c'est ce que je pense pour moi, parce que je crois en moi.
Eh bien non.
Parce que comment aller vers les autres si on ne croit pas en soi?
Alors, en tout cas, la foi au niveau religieux, hein.
Oui.
Parce que finalement, on pourrait dire la foi, la confiance, c'est très voisin.
Oui. Voilà.
Simplement, on peut être complètement athée.
Oui.
Et avoir vraiment confiance en soi, voyez,
oui.
La foi, ça implique une dimension spirituelle.
Mais si on considère que Dieu est en nous.
Oui, on peut avoir peut-être aussi la foi, alors, et pas avoir confiance en soi.
Mais on a confiance.
Alors, il y a tous les cas de figure.
Voilà, c'est ça. Donc il faut développer.
On peut être athée et avoir confiance en soi.
Oui.
On peut être croyant et ne pas avoir confiance en soi. Et puis, on peut avoir et confiance en soi et être croyant et du coup avoir confiance en Dieu, en la Providence. Voilà, mais ce sont deux plans différents. C'est-à-dire, il y a la confiance en soi ou dans les autres, ou même dans la vie,
ouais,
qui sur le plan psychologique, et puis il y a la dimension spirituelle,
oui,
de croire en Dieu, d'avoir, oui, confiance en Dieu, et parce qu'on se sent aimé de Dieu, ou, voilà, de se faire confiance.
Oui, voilà, oui.
Alors, ça veut, il peut, bien sûr, il y a des interactions, c'est-à-dire que c'est un peu ce que Jésus dit, si vous aviez la foi, vous déplaceriez les montagnes. Et là, déplacer les montagnes, ça veut dire de se faire confiance aussi.
Ouais.
Mais ça n'empêche que ce sont deux plans différents qui, même s'ils peuvent interagir, peuvent être complètement séparés.
Mmh. Oui, la preuve, c'est que, comme vous disiez, on peut être athée et avoir, avoir grande confiance en soi.
Voilà.
Et puis, on peut avoir la foi et puis, au niveau psychologique,
manquer complètement, complètement de confiance.
Oui, c'est ça, oui.
C'est vraiment deux choses.
Mais ça peut interférer quand on a une foi très forte, elle peut interférer sur la confiance. Voilà, c'est ça.
Voilà, et ça peut arriver, par exemple, à un moment de conversion ou autre, de retrouver une confiance en soi.
Oui.
Voilà, parce que la personne, finalement, en mettant sa confiance en Dieu, et en croyant à la Providence, va pouvoir se faire confiance à elle-même.
Voilà, il y a une interaction, là, il y a une connexion, voilà, qui se... Oui.
Parce qu'on s'aperçoit que, vis-à-vis des enfants, on n'a de pouvoir que si on le détient d'en haut. Parce que par soi-même, évidemment, on est toujours critiquable. Donc... Et ça, c'est au niveau les rois eux-mêmes, avaient la modestie d'avoir la sainte ampoule, c'est-à-dire de tenir leur pouvoir de Dieu.
Ça, c'est l'idéal.
Oui, mais voilà.
Oui, c'est l'idéal.
Ça, c'est l'idéal.
Oui. De laisser faire, laisser vivre.
Voilà. Non, on ne laisse pas faire, surtout pas.
Non, mais laissez le Christ agir.
Il faut être maître de ses actions.
Voilà, évidemment. Mais c'est surtout que c'est, je pense que c'est idéal dans un sens où ça inspire une humilité. C'est-à-dire,
oui, absolument, voilà.
Mais il n'empêche que tout adulte, tout parent et tout adulte, tout éducateur a un pouvoir sur les enfants.
Incroyable, oui.
Ne serait-ce parce que la relation n'est pas d'égal à égal. Voilà, il y en a un qui est adulte, qui sait, qui a une force physique, qui a une autorité vis-à-vis de l'enfant. Du coup, c'est pas une relation d'égal à égal, et l'adulte a forcément un pouvoir sur l'enfant. Et parfois, il y a des adultes qui en abusent, d'ailleurs.
Oui. Mais voilà. Quand on prend une décision, c'est très difficile de la prendre seule pour le bien des enfants. Et il faut en référer. Si Dieu est en nous, il nous éclaire.
Bien sûr.
Mais
bien sûr.
Il faut avoir confiance en soi pour pouvoir aller aux autres. Sans ça, s'il vous voit entièrement soumis à la providence et sans projet, vous pouvez pas les entraîner dans le bon chemin.
Il y a deux choses à la fois. Il faut la confiance en la providence et la confiance en soi.
Voilà.
Et j'ai l'habitude de dire, pour avoir la tête dans le ciel, il faut des chaussures en plomb.
Merci.
Ah oui, c'est un très bon problème.
À 23h.
Radio Notre-Dame. Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 9h15 et 19h50. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque de France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 9h15 et 19h50 sur Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi. C'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame.
Le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame.
8h30, 18h.
Le journal de Radio Vatican.
La CIA a bien donné de l'argent à des responsables avocats.
19h30.
Le magazine.
Avant de quitter Séoul, le Saint-Père a prié pour la réconciliation.
Minuit 30.
L'actualité de l'Afrique.
Rendez-vous avec l'Afrique.
L'actualité de toute l'Église.
C'est tous les jours sur Radio Notre-Dame.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Donc ce soir avec Pascal Pariné, comment retrouver la confiance en soi? Alors, on a vu, point de vue base, les points importants plutôt. Et d'abord, la sécurité de base, vous nous disiez. Puis, la capacité à être seul.
Oui.
Développer son sentiment d'être capable.
Voilà, à travers l'action, travers...
En gérant ses émotions
aussi. Gérant ses émotions.
Et puis, autre point encore, élément, pour construire...
Développer son sentiment d'être intéressant. Alors, l'enfant, il va se sentir intéressant par l'écoute de ses parents.
Parents, oui.
Parce que d'abord il se sent aimé, et puis parce que quand il parle, ses parents vont l'écouter. Alors pas toujours, hein. Bien sûr, il s'agit pas d'être à l'écoute du moindre mot de ses enfants, mais en tout cas quand il a vraiment besoin de parler, qu'il puisse être écouté. Et puis, on pourrait dire que l'adulte aussi, il a besoin aussi de retrouver ou de retrouver ça, parce que beaucoup d'adultes pensent qu'ils sont pas intéressants ou qu'ils ont rien à dire ou que ce qu'ils vont dire, ça va pas intéresser les autres. Et du coup, ils se mettent en retrait, ils se sentent pas aimés. Et ce qui est important, c'est de sortir de cette croyance pour découvrir sa propre valeur, que ce qu'on pense peut intéresser les autres. Voilà, alors on n'a pas toujours des choses intéressantes, et d'ailleurs souvent les conversations, ça commence par bonjour, comment ça va, enfin par des banalités,
oui.
Et que c'est en approfondissant qu'il y a des choses intéressantes qui se disent. Mais en tout cas, chacun a quelque chose à dire d'intéressant, quel qu'il soit. Et puis ça bien sûr ça va varier en fonction de sa culture, de ses centres d'intérêt, de ce que fait la personne dans la vie, mais elle a de la valeur, nous avons tous de la valeur et de l'intérêt pour les autres. Voilà,
donc c'est il faut retrouver ça et savoir que on a quelque chose à apporter, à donner.
À donner.
Le meilleur de soi, parce que voilà. Et l'autre aussi a quelque chose à nous apporter.
Alors,
le meilleur de lui.
Intéressant, c'est aussi souvent sur un domaine intellectuel. Quand on dit j'ai rien d'intéressant à dire, souvent on pense intellectuel, oui. Culturel. Voilà, mais je pense que, et les Japonais, par exemple, il y a quelques années, quand ils venaient visiter au tout début de l'essor du Japon, quand ils venaient visiter des entreprises, ils emmenaient toute la chaîne hiérarchique, c'est-à-dire de l'ouvrier le plus simple au cadre supérieur, parce que chacun allait remarquer en fonction de son métier, de ce qu'il faisait dans l'entreprise, allait remarquer des choses spécifiques qui étaient intéressantes, et qui, du coup, c'est en récupérant les différents avis à tous les niveaux qu'ils ont pu avoir cet essor très rapidement.
Et ils ont compris cela, que chacun avait quelque chose
à apporter.
Oui. Alors, autre élément encore à développer.
Alors, développer le sentiment d'être compétent. Alors, compétent, ça, chez l'enfant, ça va se développer dans les apprentissages scolaires, par exemple. Et quand il apprend à lire, quand il apprend à compter, il découvre des compétences qu'il n'avait pas. Mais ça se construit aussi dans la cour de récréation, à jouer avec les autres. À apprendre à vivre avec les autres, à apprendre les règles de la vie en société. Alors, tout ça, l'enfant, il l'acquiert, beaucoup dans sa famille, à l'école, avec quand même un besoin de... Il faut qu'il sente que même s'il fait des erreurs, il va pas perdre l'amour. C'est-à-dire, il a besoin d'avoir droit de faire des erreurs. Et c'est important que, d'abord, au niveau de l'éducation, qu'il y ait des règles assez simples, peu de règles, mais des règles précises, compréhensibles par le fond, qu'il y ait une certaine justice, si... entre frères et sœurs, par exemple, ou entre élèves dans l'école, et puis qu'il soit assuré que même s'il fait une bêtise, même s'il fait une erreur, il ne va pas pour autant perdre l'amour de ses parents. Voilà. Et puis, chez l'adulte, ça va se renforcer, d'abord... au travers de ses activités, que ça soit au travail ou dans les loisirs. Par exemple, parce qu'on appelait avant les règles de l'art. dans tous les métiers, dans chaque métier, il y avait des règles de l'art. Mm. Et quand on avait bien assimilé, alors ça pouvait être manuellement, ça pouvait être intellectuellement, mais quand ces règles de l'art étaient, autrement dit,
assimilées,
le professionnalisme était assimilé, ben à ce moment-là, la personne se sentait compétente. Voilà, l'apprentissage, par exemple, pour ça, était important, toute la notion d'apprentissage. Et puis, ça se développe aussi beaucoup avec l'impression d'un savoir vivre ensemble, de savoir être en relation avec les autres, de savoir s'intégrer dans un groupe. Autrement dit, toute la façon de se comporter, d'avoir une compétence pour se comporter en société avec les autres, voilà, ça donne un sentiment de compétence à l'adulte.
Donc on voit que la compétence est très large.
Oui, c'est à la fois sur des choses
précises
alors soit professionnelle par exemple dans son métier, mais aussi dans le savoir vivre ensemble, comment on se tient en société, comment on parle avec les autres. Donc ça balaye beaucoup de domaines. Mmh. Oui.
Donc on voit que ça c'est assez large. Et donc si la confiance en soi est bien établie, on peut dire dans l'enfance ou l'adolescence, l'adulte aura il y a une assise.
Voilà, mais c'est réciproque, c'est-à-dire que c'est à la fois. Plus chaque étage est bien construit de confiance en soi, et plus l'étage suivant sera facile à acquérir. Mais par exemple, quelqu'un qui, même un jeune qui sera en échec scolaire et qui basculerait vers l'apprentissage d'un métier, s'il se sent compétent dans son métier, dans son apprentissage, il va retrouver la confiance en lui.
Oui, c'est ça.
Donc, on voit vraiment que c'est en vaste communiquant. À la fois, la confiance va aider à acquérir les compétences et les compétences vont aider à construire la confiance.
Voilà, c'est... Donc, on peut retrouver un équilibre de cette façon-là, quelque part.
Oui.
Hein
oui.
Alors, et ça peut être dans tous les domaines. Hein,
Oui, c'est vraiment dans tous les domaines. Alors, pour l'enfant, les apprentissages à l'école, mais dans la cour de récréation, même les bagarres entre copains, ça va lui donner un sentiment de compétence pour peu qu'il gagne. Ou en tout cas qu'il ait l'impression, parce que souvent les bagarres entre copains, il n'y a pas vraiment de perdant, quoi. Tout le monde a eu l'impression d'avoir battu l'autre.
Voilà, c'est un petit peu, on mesure un petit peu ses forces.
Voilà.
Surtout pour un garçon, peut-être.
Voilà, plus pour les garçons. Oui. Et puis les premiers amours aussi, ça donne un sentiment de compétence dans la relation à l'autre sexe. De savoir aborder une jeune fille, c'est aussi tout ça, ça donne
confiance
d'accepter les échecs, là aussi c'est important d'accepter, parce que on peut pas séduire toutes les jeunes filles quand on est adolescent, et forcément il y a des échecs
et puis c'est pas recommandé de les séduire toutes, là c'est autre chose, il y a un malaise aussi.
Oui, mais ce qui est important, c'est que le jeune vive accepte qu'il peut pas plaire à tout le monde et que il peut y avoir des échecs, mais que c'est pas grave et que il rencontrera quelqu'un qui un jour va l'accepter.
Voilà.
Et tout ça développe la confiance.
Alors donc est-ce qu'il y a des expériences particulièrement importantes qui peuvent avoir un impact sur la confiance en soi?
Oui, alors on a On a parlé qu'il fallait un environnement suffisamment bon. Et du coup, ben, y a des expériences qui peuvent avoir un impact. À la fois, ben, quand l'environnement est porteur, ben, toutes les expériences positives, scolaires ou familiales ou amicales vont renforcer. Puis à l'inverse, mais quelqu'un qui vit dans des tensions familiales, dans des situations de violence familiale, forcément, la confiance, elle va en prendre un coup.
Ben
voilà, le divorce aussi des parents, a souvent un impact, même s'il n'est plus le même qu'il y a 50 ans, parce que ben, malheureusement, ça se banalise. Mais avec ça, heureusement, les enfants le vivent d'une façon un peu moins dramatique.
Ouais.
En tout cas, ils se sentent plus seuls à être enfants de parents divorcés.
Parce qu'avant, il pouvait y avoir une honte, même une culpabilité.
Avant, il y avait une honte, une culpabilité. L'enfant n'osait pas le dire parce qu'il était...
Il était tout seul dans sa classe.
Aujourd'hui, bon, du coup, ils le vivent un peu mieux. Mais quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas que ça fait souffrir l'enfant. Il peut se sentir un peu différent quand même. En tout cas, il voit qu'il y a une différence entre l'avant et l'après. Du coup, perdre un peu confiance. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'humiliation. On en parlait avec l'auditrice tout à l'heure à l'école, les rejets par les copains d'école, les humiliations. Tout ça, ça a un impact extrêmement important sur la confiance en soi. Et on voit ça avec les phénomènes de bouc émissaire dans les écoles, ou de rejet au collège, qui peuvent vraiment, ou même au lycée, ça arrive encore parfois au lycée, qui peuvent vraiment avoir un impact.
D'autres expériences encore.
Voilà, les échecs aux examens, par exemple. Les ruptures amoureuses, quand quelqu'un est très amoureux et qu'il y a une rupture, ça peut lui faire perdre confiance, notamment pour les relations futures. Voilà, le chômage, la maladie, tous ces événements-là, finalement, peuvent avoir un effet sur la confiance en soi. Alors, bien sûr, en fonction de l'âge où ils sont vécus, plus c'est jeune, plus ça risque d'avoir un effet. Et plus la personne est mature, plus il sera en capacité à gérer l'événement.
Oui, parce qu'elle peut, elle peut gérer plus facilement, disons.
Voilà.
Alors, on peut pas dire qu'il y a quand même rien de prédéterminé.
Non, il y a rien de prédéterminé. C'est plutôt une interaction entre la personne et puis les événements. Autrement dit, c'est la façon dont la personne va les vivre et comment, à travers les événements, elle va gérer son estime de soi. Alors, si la personne, par exemple, un élève qui vit un échec à un examen, il peut se dire bon, j'ai pas assez travaillé, du coup, si on redouble l'année prochaine, je vais travailler, je vais réussir. Et dans ce cas-là, ça va pas entamer sa confiance en lui, mais ça va l'aider au contraire.
Ça va le stimuler. Il va réagir.
Et puis il y a ceux qui vont le vivre comme un échec et qui vont se dire je suis nul, j'ai raté, tous mes copains ont réussi, moi je suis pas arrivé. Et là, ça va attaquer. Et donc, ce qui attaque beaucoup la confiance en soi, c'est comment la personne vit. Donc, est-ce qu'elle le vit comme une expérience, comme un échec? Est-ce qu'elle remet en cause les circonstances? voilà, j'ai pas assez travaillé, l'année prochaine je travaillerai plus. Ou alors est-ce qu'elle s'attaque elle-même? C'est-à-dire, au lieu de reconnaître, si on reste dans cet exemple-là, les circonstances, ben voilà, fallait que je travaille, je l'ai pas fait, ben c'est normal, oui. C'est normal que je rate mon examen.
Il y a une logique, oui.
Voilà. Ben si au lieu de ça, elle s'attaque elle-même dans son image ou dans ce qu'elle est, c'est-à-dire en disant je suis nul, je suis pas à la hauteur, je sais pas trop, je suis pas assez intelligent ou je sais pas quoi, ben là, elle va attaquer et son estime et sa confiance.
Mais c'est pas ajusté, c'est ma... y a quelque chose qui... Elle a reporté sur... au lieu de voir objectivement que...
Oui, mais c'est le cas de beaucoup de personnes et de beaucoup d'adultes qui, au lieu de regarder les circonstances objectivement... vont s'auto-critiquer en estimant qu'ils sont pas à la hauteur ou qu'ils ont mal fait ou qu'ils ont et ce qui est important c'est de prendre en compte aussi les circonstances.
Donc c'est manquer de confiance et ça fait progresser, enfin ça diminue encore la confiance en soi.
Voilà. À partir du moment où au lieu de, c'est vraiment la différence entre l'optimiste et le pessimiste. L'optimiste, ouais. Il met en cause les, quand il y a quelque chose qui se passe mal, il va mettre en cause les circonstances, oui. Et du coup pouvoir agir dessus.
Oui.
Et le pessimiste, il se remet en cause lui-même et du coup, bah, il ne peut pas agir.
Oui, c'est les deux tempéraments. Hein, oui. Alors, on va revenir sur tout ça dans quelques instants, Pascal Parinet. On se retrouve dans quelques instants.
La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok, mais pourquoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible, pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot. Tous les dimanches à 9h30 sur Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, Radio Notre-Dame vous propose de vivre les offices en direct. La messe pour les malades, le jeudi, à 14h45, célébrée à Notre-Dame des Victoires. Les vêpres du dimanche, à 16h, depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et la messe du dimanche, en direct de Notre-Dame de Paris, à 18h30.
Parce que la musique ouvre les portes de l'âme, le père Claude Olivier nous mène à la baguette et nous emmène tous les lundis et mercredis à 16h dans un voyage intérieur pour explorer avec lui les trésors de la musique sacrée. Les grandes heures de la musique sacrée, tous les lundis et mercredis à 16h sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Virginie de l'équipe du téléphone du dimanche. Depuis 30 ans, tous les dimanches, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en leur permettant d'écouter les messages que leurs familles et leurs proches transmettent en direct grâce à notre standard. Car quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Votre message est un lien précieux et vital, car en entendant la voix d'un parent, de son ami, de son enfant, les détenus reprennent courage et confiance en l'avenir. Alors vous aussi, soyez fidèles à ce lien unique qui redonne l'espérance. Et retrouvez-nous tous les dimanches de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Comment retrouver la confiance en soi? C'est le thème ce soir avec Pascal Parinet. 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. Et peut-être vous avez des stages là en vue
oui,
pour concernant la confiance en soi.
Alors sur la confiance en soi, on a un stage le 30 et 31 mars.
Ah, c'est bientôt, alors voilà. 30 et 31 mars, oui.
Donc sur la confiance en soi et l'estime de soi, on travaille les deux aspects en même temps.
Oui.
Voilà, et un autre stage sur l'image de soi et le regard de l'autre,
oui.
Les 22-23 juin.
22-23 juin. Image de soi, regard de l'autre.
Voilà, mais au mois de mars, donc fin mars, 30-31 mars, la confiance en soi et l'estime de soi.
On est là-dedans, quoi.
Voilà.
Oui, et donc le téléphone est
alors, le téléphone, pour avoir des renseignements, c'est le 06 60 15 79 60.
Oui.
06 60 15 79 60. Et sinon, le site internet, vous tapez psychrétien.com au singulier, tout attaché au singulier.
Oui.
Voilà, et vous tombez sur notre site.
Très bien. Écoutez tout de suite Edmond, qui est en ligne.
Oui.
Oui, bonsoir Edmond.
Bonsoir Chantal. Et puis merci pour vos invités, et puis les petits pas en coupure musicale, j'ai beaucoup aimé.
Ah ben voilà, les petits pas. Hein.
Bonsoir Monsieur Parinet.
Bonsoir.
Oui.
Alors, on vous écoute Edmond.
Ben, moi, j'ai eu de bons éducateurs. Alors, j'ai confiance en moi. Et alors, avec mes enfants, j'ai voulu leur apprendre à avoir confiance en eux.
Oui.
Et à l'école, eh ben, j'étais déçue parce que les professeurs leur disaient « De toute façon, vous ferez des chômeurs. »
Ah, ben dis donc, ça donne confiance, ça.
Ouais.
Oui, alors, ils ne voulaient plus travailler.
Ben oui, si c'est pour être au chômage, y a pas, ça ne donne pas envie de travailler à l'école, oui.
Ah, il y a peut-être une petite erreur dans...
Ouais, là, il y a une erreur pédagogique. Là.
Voilà.
Oui, alors moi, je voulais vous demander, parce que à la naissance de mon aîné, j'ai été hospitalisée en psychiatrie.
Oui.
J'ai dû faire une psychose.
Oui.
Et je me demandais toujours si cette absence à la naissance lui avait
nuit. Ben écoutez, je peux pas vous dire comment il va, votre fils.
Oh, il est très bien, sauf que en ce moment il me pose des questions parce que il veut divorcer.
Oui, mais voilà, mais s'il est très bien, c'est que ça lui a pas nuit.
Oui, et puis son père a pris le relais.
Voilà. Après qu'il veuille divorcer, vous savez ça aujourd'hui.
Mais c'est dommage.
Ah, bien sûr.
Moi, je vais bientôt fêter mes 50 ans de mariage.
Oui.
Alors, je trouve que c'est dommage qu'ils ne connaissent pas ça.
Tout à fait, tout à fait. Mais, il peut se faire aider.
Ah, oui.
Il peut se faire aider.
Il a eu un burn-out. Alors, comme on est un peu fragile du point de vue psychiatrique dans la famille, j'ai deux frères qui ont fait de la schizophrénie.
Oui.
Alors, j'ai eu peur aussi.
Oui.
J'ai facilement peur. Et je me demande si je ne leur ai pas transmis ma peur.
Ben, écoutez, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais vous
voyez, avec mes petits-enfants, quand on me les confie, j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose.
Oui, ça, c'est souvent les grands-parents, ils sont un peu craintifs, voilà, mais en même temps, c'est sûr que les petits-enfants, faut faire attention, faut avoir l'œil dessus, mais à partir du moment où vous gardez l'œil dessus, il n'y a pas de problème.
Oui, et alors maintenant, je suis en hôpital de jour.
Oui.
On travaille beaucoup sur la confiance.
Oui. Oui, parce que c'est important.
J'ai confiance en moi, et confiance dans le temps, l'argent.
Oui.
Enfin, ça me fait beaucoup de bien.
Bien.
Voilà, vous retrouvez, c'est une bonne chose. d'avoir trouvé cette voie. Hein,
cet hôpital de jour,
oui, oui. Ouais,
une très bonne chose pour moi.
Voilà, et puis pour votre fils, s'il a fait un burn-out au travail, dites-lui de se faire aider parce que c'est pas facile et souvent on a besoin d'aide pour récupérer. Voilà, et puis en même temps, comme ça, il pourra parler aussi de ses envies de divorcer et se faire aider aussi à ce niveau-là.
Oui, voyez, c'est-à-dire que actuellement, il a quitté son travail. Il travaille dans l'informatique.
Ouais.
Et avec sa femme, il a monté une société pour devenir riche.
Ouais.
C'est surtout ça qui les intéresse maintenant.
Ouais.
Et moi, comme je suis très spirituelle, ça me fait un peu peur, cette vision-là.
Vous savez, après, c'est lui qui va voir comment il arrive à avoir des clients. Faut lui faire confiance aussi. Et puis,
la confiance est réciproque.
Voilà. Et puis, de toute façon, si jamais il a eu du mal à gagner assez d'argent, il retournerait travailler chez un employeur, mais il faut lui faire confiance.
Oui, mais il est de 67, alors trouver du travail à son âge.
Oh, si, il y a des domaines où il y a de l'emploi.
Il n'a aucun diplôme.
Oui. Oui, mais il a travaillé en informatique pendant des années, vous savez,
oui.
Il a une expérience.
Oui.
Ah oui, ça revient. Hein. En tout cas, voilà Edmond, merci en tout cas de nous
de
avoir
votre témoignage.
Partagé
merci
cela.
Pour ces conférences.
Bonne soirée.
Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir, Edmond. Voilà, on va voir, Pascal Parinet, comment retrouver alors la confiance en soi, si on l'a perdue suite à des événements. Par exemple, ou alors si on en manque,
oui, alors,
comment peut-on faire?
Alors, la première chose, c'est, on pourrait dire, quand il y a vraiment une insécurité chronique ou intense, ou les deux, ou que c'est associé à d'autres troubles comme dépressifs, alimentaires, phobiques. Là, faut vraiment faire un travail sur soi. Voilà. Pour d'autres, pour quand c'est plus du domaine courant, la première chose, c'est de se poser la question quel est mon idéal.
Oui.
C'est-à-dire de découvrir son idéal, ce que la personne aimerait être.
Oui.
Autrement dit, quels sont les modèles qui nous ont influencés et quel idéal avons-nous en nous? Et est-ce qu'il n'est pas trop exigeant? C'est-à-dire, l'idéal, ça donne une direction, mais on n'est pas obligé de l'atteindre tout de suite.
Voilà, c'est ça.
et si on veut l'atteindre tout de suite, ça veut dire qu'on est trop exigeant.
Donc ça c'est pas... C'est
et ben ça, ça va engendrer un sentiment de ne pas être à la hauteur.
Ah ben oui.
Et du coup...
Ça ne va pas favoriser la confiance en soi. Hein.
Voilà. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut, bien sûr, c'est utile un idéal parce que ça nous guide, mais il faut garder un idéal réaliste et en tout cas changer son rapport à la perfection. L'autre point, ça va être d'accepter ses limites. Parce que, on est, en tant qu'être humain, on a des limites. Ça veut dire d'en être conscient et de les reconnaître.
Oui.
Et donc, il ne s'agit pas de dire, comme tout à l'heure, je ne suis pas capable, mais il ne s'agit pas de croire qu'on est capable de tout non plus. Et du coup, la reconnaissance des limites, ça permet de se faire aider quand c'est nécessaire. mais aussi de mieux accepter la frustration et le fait de pas pouvoir tout faire. Mmh. Voilà, ça c'est quelque chose d'accepter. Bah, il y a des choses qu'on peut pas faire soi-même. On demande de l'aide à un professionnel ou à un ami qui sait faire. Ou...
Voilà, faut pas avoir peur de se faire aider.
Voilà, on a tous besoin les uns des autres finalement.
Encore une autre clé pour reprendre la construction à la base de la confiance en soi.
Quand on doute, c'est important de vérifier. C'est-à-dire, chaque fois qu'on se dit « je suis pas capable de faire ça, je sais pas faire ça », c'est important de vérifier concrètement si c'est vrai.
Comment alors? Comment on fait pour vérifier?
Il faut le faire.
Faut le faire.
Voilà, faut le faire en renonçant à la perfection.
Voilà, oui. Là,
ce qu'on a dit avant.
Oui, juste.
En se donnant du temps. Parce que la première fois qu'on fait une chose, on a besoin de temps. Mmh. Et en acceptant au besoin de devoir apprendre à faire une chose. Mmh. Je sais pas, quelqu'un qui a jamais bricolé, par exemple, il a besoin d'apprendre.
Familiarise déjà.
Se familiariser et puis accepter qu'il ne le fasse pas aussi bien qu'un professionnel. Mais.
Ça vient doucement, hein.
Progressivement.
Donc on vérifie comme ça.
On vérifie. Plutôt que se dire je ne suis pas capable, on passe à l'action et on voit le résultat. Alors, en même temps, faut être un minimum réaliste, c'est-à-dire faut pas avoir des... Alors là, on rejoint l'idéal, un idéal trop élevé, et croire que tout est possible.
Mmh. Alors, on va peut-être écouter Thérèse qui est en ligne. Voilà. Thérèse.
Oui, bonsoir Chantal, c'est Thérèse de Toulouse.
Thérèse de Toulouse, bonsoir Thérèse.
Je suis très heureuse de vous entendre et d'avoir l'antenne et ainsi que le père Parinet.
Ah non, je ne suis pas
Pascal,
père.
Pascal. Ah pardon.
Père de famille, mais pas...
Père de famille, voilà.
Oui. Voilà, mais pas prêtre.
Eh bien, écoutez, moi ça fait 2 ans que j'ai du mal à vous avoir, mais bon, c'est un peu... C'est un petit peu ma vie parce que j'ai été très 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 fatiguée et donc je dormais, j'ai écouté vos émissions et après je m'endormais. Mon problème, il est là, c'est que ça va faire 9 ans le 6 avril cette année que mon mari est décédé.
Oui.
Or, tout me revient à la surface actuellement depuis quelque temps et j'en fais même des cauchemars. Avant de décéder, mon mari, il m'a dit qu'il m'avait aimé parce que j'avais un joli corps. Voilà. Alors je lui ai dit, et ma tête, et ma voix, et ma personne. Bon, je lui avais dit, je sors que j'étais dans une famille chrétienne, pratiquante, et tout, ça il a très bien accepté. Lui aussi, il a été baptisé et tout. Mais bon, il pratiquait pas. Et on s'est mariés, mais il m'a quand même dit avant, quand on aura des enfants, tu feras ce que tu veux, tu peux les faire baptiser, tu peux... Enfin, or, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Malheureusement pour moi, et heureusement que j'ai la croyance et que j'ai été élevée chez les sœurs et dans une famille très croyante, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait 4 fausses couches, j'ai perdu un enfant à la naissance. Cet enfant était très beau et tout. 24 heures après, il est décédé dans mes bras. Bon, j'ai tout ça, j'ai dit, mon Dieu, si tu veux pas que j'ai des enfants, eh ben, écoute, je te fais confiance, on verra bien. Et puis finalement, j'en ai eu 2. À la fin de ça, j'abrège, parce que c'est long. Et à la fin de sa vie à mon mari, il a été longtemps malade, 38 ans de mariage. Hein.
Oui.
Je ne m'attendais pas à qu'il me dise avant de partir, et en même temps j'étais contente qu'il a pu le dire, qu'il regrettait beaucoup et qu'il m'en voulait parce que cet enfant n'a pas été baptisé. Or, à la clinique, on l'a baptisé.
Oui.
Mais pour l'enterrement, un enfant de 24 heures, bon, on a appelé, on a appelé le prêtre, enfin c'était Monseigneur des Italiens, hein, parce que je suis d'origine italienne mais française. Et donc, soi-disant qu'on ne l'avait pas prévenu d'avance, les sœurs, et finalement, bon, les pompes funèbres, tout ça, ils sont arrivés. Et moi, tout ça, j'étais rentrée de clinique, j'ai pas pu le suivre, l'enfant. Or, il m'a reproché que je n'ai rien fait pour qu'il soit baptisé. Ça, c'est à la fin de sa vie.
Et il a été baptisé, vous dites?
Il a été baptisé, alors... oui, puisque l'infirmière en chef, lorsqu'elle est venue, elle est venue me le dire, puisque j'avais bien vu que l'enfant n'allait pas vivre, étant donné que je l'avais dans mes bras et que je l'ai sonné. Et puis...
Est-ce que votre mari l'a su qu'il était baptisé ou pas?
Ben, pour lui, il n'était pas baptisé. Et pour lui, il a été enterré comme un chien. Voilà ce qu'il m'a dit à la fin de sa vie. Or, pendant 38 ans, il a gardé ça pour lui. Et maintenant, là, bon, moi, je l'ai. Quand il me l'a dit, comme il était dans un état, bon, qu'il partait, que je l'ai suivi pendant pas mal d'années, et que j'ai suivi sa fin de vie, ben, en tant que croyante et pratiquante, j'étais surprise, parce que je dis quelle souffrance qu'il a dû avoir. Mais maintenant, depuis un an ou deux, là, tout me revient à la surface et je perds un petit peu pied.
Ouais.
Pas que je ne crois pas en Dieu, au contraire, je lui parle tous les jours, mais j'ai changé. Or, j'ai deux enfants, deux grands enfants, un de 43 ans qui a trois enfants, ils sont grands, et j'ai un deuxième enfant qui a 40 ans, qui a deux enfants aussi. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un grand changement en moi.
Ouais.
Mais comment faire?
Alors, Pascal,
je fais un travail sur moi. Ouais. J'ai été suivie par un ami prêtre. Or, je ne le vois plus depuis quelque temps. Et ça fait que je suis face à moi-même, face à tous les jours à prier Dieu. Et je vais de moins en moins à l'église. Ça, je vous l'avoue sincèrement. Non pas que j'en veuille à Dieu, mais c'est moi qui a changé. C'est moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive d'avoir changé à ce point? Alors, mes deux filles se posent la question. Ils se disent, mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Pourquoi tu es comme ça maintenant? Et avant, je tiens bien ma maison, je m'occupe, mais je fais des cauchemars. Je me dis, mais comment j'ai pas pu le comprendre? Comment...
Vous le culpabilisez, là.
Ouais. Et maintenant, je me culpabilise.
Bah oui.
Voilà, mais faites-vous aider. Moi, je pense qu'il faut que vous fassiez aider. Alors, il y a deux choses. Vous savez, en fin de vie, les personnes passent par diverses phases.
Oui.
Y compris des phases un peu de colère. Et peut-être qu'il vous a dit ça à une phase un peu de colère et puis, voilà, il a exprimé.
Apparemment, je l'ai bien pris à ce moment-là parce que je sentais que je voulais qu'il parte bien. Mais quand on m'a prévenu, c'était le seul jour. Pendant 4 ans, je l'ai suivi parce qu'il a fait tous les hôpitaux et toutes les maisons de repos. Il avait une grave maladie. Je ne l'ai pas quitté d'un jour. Je suis allée pendant 4 ans. J'ai fait des 5 kilomètres. À 8 heures, j'étais là.
Voilà, mais peut-être vous vous êtes aussi épuisé.
Beaucoup.
Et que vous avez le contre-coup de.
J'ai le contre-coup maintenant. Je suis d'accord avec vous.
De toutes ces années et voilà. Et ce sont des choses pas faciles à faire. En plus. Moi je pense que ça serait bien que vous vous fassiez aider, que vous voyez
par un prêtre
ou un psychothérapeute de façon à pouvoir parler, à pouvoir exprimer, et puis vous verrez que
J'en ai pas parlé à mes deux fils, mais je ne veux pas leur donner ce souci. Hein.
Non, mais c'est pas à vos fils qu'il faut qu'ils parlent.
C'est pas forcément
vos
enfants.
J'en ai pas parlé. Ouais. Simplement qu'ils trouvent que j'ai changé.
Ouais.
Effectivement, moi-même, je me pose la question parce que je me dis tu n'es plus comme avant.
Mais ça, c'est le contre-coup. C'est pas facile d'accompagner pendant 4 ans quelqu'un, et physiquement et psychologiquement. Faites-vous aider. Je pense que ça peut aller très vite. Peut-être
il y a des choses
à expliquer.
J'avais besoin ce soir de vous le dire.
Ouais,
Et j'ai beaucoup de chance d'avoir l'antenne. Je vous remercie infiniment.
De rien.
Essayez de trouver là quelqu'un, c'est important.
Oui, mais j'ai confiance parce que je suis forte de caractère. Mais là, en ce moment, je suis vulnérable.
Il faut trouver quelqu'un avec qui parler, et peut-être un psy pour vous aider.
Voilà, merci Thérèse. Merci, bonsoir. On va écouter, alors cette fois-ci, c'est Yves Montand. Yves Montand qui chante. Parce que ça vous donne du courage.
Radio Notre-Dame.
Quand le facteur part en tournée, on entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage. Ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Et le peintre en bâtiment, quand il repeint l'appartement, chante gaiement. L'air de Guillaume Tell sur sa grande échelle, parce que ça lui donne du courage. Ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Mais le notaire qu'on voit passer avec son œil glacé, sa petite serviette, son pardessus et son air compassé, rasant les murs du vieux lycée à petits pas pressés. Ah, qu'il est triste, triste, triste. Alors moi, quand ça ne va pas, ben j'ai compris, je chante comme ça. La, 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 la. Parce que ça me donne du courage, ça me remet le cœur à l'ouvrage. Sans tic-tac, l'horloge s'arrête et sans clochette, pas de troupeau. Sans amour, les gens s'embêtent. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Quand le facteur part en tournée, on entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage. Ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Et le plongeur de la guinguette, quand il jongle avec les assiettes, chante à tue-tête. L'air de Miss Eliette et l'escarpolette, parce que ça lui donne du courage. Ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Monsieur Mathieu le contentieux, 37 rue Richelieu, un triste lieu sombre et crasseux, tout plein de papiers bleus, des lunettes noires qui lui font voir un monde sans espoir. À qui il est triste, triste, triste. Alors moi, quand ça ne va pas, ben j'ai compris, je chante comme ça. La, 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 parce que ça me donne du courage. Ça me remet le cœur à l'ouvrage. Sans tic-tac, l'horloge s'arrête. Et sans clochette, pas de troupeau. Sans amour, les gens s'embêtent. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot.
Voilà, donc pour reprendre confiance en soi, quelques clés. Autre clé, alors... Après, on a dit accepter ses limites, vérifier lorsqu'on doute. On était là.
Accepter de vivre ses expériences. Finalement, ça rejoint d'accepter l'erreur qu'on disait tout à l'heure. Même si on fait ce qu'on peut pour limiter les erreurs.
Oui.
Mais en tout cas, on apprend autant de ses erreurs que de ses réussites. Et du coup, quand on accepte et de réussir, mais aussi la possibilité de faire des erreurs, ça permet d'intégrer les expériences, d'en faire quelque chose plutôt que de se culpabiliser et de s'autocritiquer. Oui. Voilà, il vaut mieux l'accepter et en faire quelque chose.
Alors, autre point encore.
Alors, okay. S'ouvrir au possible. Et
qu'est-ce que c'est d'admis, voilà. Oui.
Souvent, il y a des personnes qui croient que c'est impossible de réaliser leurs désirs ou que c'est impossible de faire une chose. Il est important de s'ouvrir, de se laisser au possible, de s'ouvrir au possible pour se laisser une chance de réussir.
Ah ben oui.
Parce que
si on ferme la porte, on
va directement à l'échec.
Oui.
Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire aussi d'être conscient de ses croyances quand elles sont limitantes et de les corriger. Voilà. Et de sortir d'un système binaire noir ou blanc. Parce que entre le noir et le blanc, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Voilà. Et qu'est-ce qui va encore permettre de retrouver la confiance?
Alors, dissocier le faire, l'avoir et l'être, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mettre en cause les circonstances, donc, et par contre, respecter l'être. C'est-à-dire que, voilà, si on ne sait pas faire une chose ou si on n'a pas une chose, ça n'intervient pas sur notre valeur personnelle. On sait faire d'autres choses, on l'a dit, on peut pas tout faire.
C'est ça,
donc
oui.
C'est voilà, et du coup, mais il faut pas, parce qu'on sait pas faire une chose, que ça mette en cause tout l'être.
Oui, oui.
Voilà,
c'est une chose. Bon, on circonscrit à cette chose, on reconnaît qu'on sait pas faire.
Voilà.
Mais il y a d'autres choses qu'on
sait faire. Il y a d'autres choses qu'on sait faire, et puis, on est plus que ce qu'on fait. On n'est pas seulement ce qu'on fait, on a notre propre valeur intrinsèque.
Un autre petit pas, alors, pour retrouver la confiance en soi.
Voilà, oser être soi-même, ce qui veut dire d'accepter de pas être aimé de tout le monde, de pas plaire à tous, parce que dans la vie, on plaît à certaines personnes et pas à d'autres. Voilà. Ce qui veut dire aussi de sortir du regard des autres et de s'accepter tel que l'on est, de plus dépendre du regard des autres.
Alors, encore des petits pas encore pour retrouver confiance.
Voilà, poser des actes. Et ça, c'est vraiment fondamental pour retrouver la confiance.
Agir.
Il est nécessaire d'agir, de prendre des décisions, même si on se trompe, c'est pas grave.
Ça débloque quelque chose.
Ça débloque. Finalement, c'est dans l'action qu'on va acquérir toutes les compétences,
les
capacités. Oui. Voilà. Alors,
même si on fait des erreurs,
C'est pas grave.
C'est humain.
On a le droit d'apprendre.
On recommence.
Et puis l'action, parfois c'est une parole, parfois c'est un agir physique, voilà.
Oui, l'action, mais ça prend des formes différentes.
Ça prend des formes différentes.
Encore un petit pas pour progresser sur ce chemin de la confiance.
Devenir responsable de sa vie, ce qui veut dire d'assumer sa condition humaine, d'assumer ses choix, indépendamment du résultat. Voilà, quand on fait un choix, ce qui est important, c'est de s'engager.
Oui.
Et puis après, le résultat, on fait ce qu'on peut finalement.
Assumer
ce que l'on est et les choix qu'on pose.
C'est-à-dire accepter d'être ce que l'on est.
Voilà.
Et alors, encore sur ce chemin, on peut aller encore plus loin.
Vivre son identité la plus profonde, parce que finalement c'est pour trouver nos talents, pour trouver nos dons, là où on peut vraiment exprimer ce qu'on est, ça passe par notre identité la plus profonde. Et ça, on peut le trouver à travers l'amour ou l'intérêt qu'on porte pour certaines activités. Et c'est là que nos talents vont pouvoir s'exprimer. On le voit avec les enfants, par exemple, les enfants qui aiment dessiner ou qui aiment les mathématiques, souvent ils sont bons en dessin ou ils sont bons en mathématiques.
Oui, ils aiment ce qu'ils savent faire. Parce voilà.
C'est d'être à l'écoute de ce qu'on aime, de nos désirs, et de les mettre en action de façon à pouvoir exprimer les talents qu'on porte en soi.
Oui. Voilà, donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, alors, pour résumer en...
Voilà, on pourrait dire que les enfants construisent leur confiance, bien sûr, à partir du regard qui est porté sur eux, mais aussi à travers tous les apprentissages, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient de vie, dans la cour de récréation, enfin, à travers toutes leurs activités. Et puis l'adulte, on pourrait dire que c'est un peu pareil finalement. Ça va être aussi à travers nos activités, à travers les choses qu'on va faire, qu'on va reconstruire ou acquérir sa confiance en soi.
On voit que l'action, il y a agir, il faut agir, c'est nécessaire.
Voilà, c'est vraiment fondamental.
Oui.
Parce que ça permet d'être dans le concret, la confiance, ça se vérifie dans le concret. Tant qu'on reste dans le rêve, alors on peut avoir confiance, mais on la vérifie pas. Dans le concret, ça permet de vérifier. Et puis on pourrait rajouter que tout ce qui est de l'ordre de la bienveillance, des regards positifs, des encouragements. De la valorisation des efforts, tout ça, ça va favoriser la confiance, l'estime de soi. Et puis, peut-être le plus important, c'est de se respecter dans son identité, dans ce qu'on est. Parce que si on va à l'encontre de ce qu'on est, forcément, ça fait perdre la confiance. Et que quand on est vraiment dans l'expression de ce qu'on est, là, on acquiert vraiment la confiance. Et puis aussi d'apprendre à élaborer ses expériences, d'en faire quelque chose, de leur donner du sens, de façon à les vivre d'une façon constructive.
Merci Pascal Varinet. Quelques questions là. Denise par exemple disait, je voudrais l'avis du psychologue sur les antidépresseurs.
Voilà, les antidépresseurs, ils peuvent être utiles, hein, ça dépend. Ce que j'ai envie de dire, c'est que antidépresseurs ou pas, aujourd'hui on sait que le plus important pour la dépression, c'est la psychothérapie. Alors l'antidépresseur, il va permettre de passer le cap, donc ça c'est important, il y a des fois c'est indispensable même, ça ne résout pas
le problème
en fond, ça permet de passer le cap, mais à un moment il faut résoudre le problème, et surtout la psychothérapie va éviter les rechutes.
Ah oui, bien sûr.
Parce qu'on a réglé le problème en cours de psychothérapie. Donc, moi, je suis favorable aux antidépresseurs pour passer la dépression et passer le cap.
Mais il faut après un travail.
Mais aussi accompagné d'un travail thérapeutique.
Maryse nous dit, j'ai eu un problème avec une amie qui me renvoie une image négative de moi. Je me suis éloignée d'elle. J'ai un peu de culpabilité, mais peut-être ai-je bien fait ?
Parfois, oui. Quand la relation est toxique, si ça abîme l'image de soi, et voilà, il y a des fois, il vaut mieux prendre un peu de distance que de rester à prendre des coups. Il n'y a pas à se sentir coupable si cet ami.
Voilà, merci Pascal Parinet. Je redonne pour les renseignements 06 60 15 79 69 et le site psychrétien.com. Les renseignements sont au standard. Merci à tous nos auditeurs. Merci à vous, Pascal Parinet. Merci également à Marie-Françoise, Pascal et Alain au standard, Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD demain à 22h. Écoute dans la nuit deux invités de frère Carme, le frère Yannick du couvent de Lille et le frère Jean-Alexandre du couvent de Paris. Le thème de la soirée, la retraite en ligne Carême 2015 proposée par les Carmes de Paris avec Thérèse d'Avila. Quand l'amour transforme, petit pas pour une vie au large, à l'occasion du 500e anniversaire de Thérèse d'Avila. Très bonne nuit à tous.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.